Audiolib présente L'aube de fondation. Le cycle de fondation, tome 7, d'Isaac Asimov. Traduit de l'anglais par Jean Bonnefoy. Lu par Stéphane Ronchevski. À tous mes fidèles lecteurs. Certaines phrases dans les articles de l'Encyclopédia Galactica sont laissées incomplètes selon l'intention de l'auteur. Ces coupes, marquées par des points de suspension dans le texte original, sont traduites à l'audio par une diminution du niveau sonore. Première partie. Eto Demerzel. Demerzel, Eto. Alors qu'il ne fait aucun doute que c'est Eto Demerzel qui gouverna réellement durant la plus grande partie du règne de l'empereur Cléon Ier, les historiens restent divisés quant à la nature de ce pouvoir. Selon l'interprétation classique, il ne fut jamais qu'un de ces oppresseurs brutaux et sans pitié, dont le dernier siècle d'unité de l'Empire galactique connut une longue lignée. Mais une opinion révisionniste affirme que s'il gouverna en despote, ce fut en despote bienveillant. À l'appui de cette thèse, on fait grand cas de ses relations avec Harry Seldon, même si le fait reste à jamais incertain, en particulier durant le curieux épisode de Laskin Yoranum, dont la fulgurante ascension. Encyclopédia Galactica. Toutes les citations de l'Encyclopédia Galactica reproduites ici sont extraites de la 116e édition, publiée en l'an 1020 de la Fondation par la Société d'édition de l'Encyclopédia Galactica, Terminus, avec l'aimable autorisation des éditeurs. Chapitre 1. Je vous le répète, Harry, votre ami Demerzel a de gros ennuis. Hugo Amaril souligna imperceptiblement le mot « ami » avec une expression de dégoût non dissimulé. Harry Seldon détecta cette pointe d'amertume et l'ignora. Il quitta des yeux son triordinateur et répondit « Et moi je te répète, Hugo, que c'est absurde. » Puis, avec une trace d'ennui, il ajouta « Pourquoi me fais-tu perdre mon temps en insistant de la sorte ?»« Parce que j'estime que c'est important. » Amaril s'assit. Ce geste de défi signifiait qu'il n'était pas prêt à se laisser chasser. Il était là et entendait bien y rester. 8 années plus tôt, il travaillait encore au puits thermique dans le secteur de Dalle, le poste le plus bas de l'échelle sociale. Seldon l'en avait sorti pour faire de lui un mathématicien et un intellectuel. Mieux même, un psychohistorien. Pas une seule minute, il n'oubliait ce qu'il avait été, qui il était désormais, et à qui il devait ce changement. Cela signifiait que s'il devait parler rudement à Harry Seldon, pour son propre bien, ce ne serait pas des considérations de respect et d'amour, ni même d'égard pour sa carrière personnelle qui l'arrêterait. Cette fermeté, comme tant d'autres choses, il la devait à Harry Seldon. « Écoutez, Harry, » dit-il, tranchant l'air de sa main gauche, « pour une raison qui me dépasse, vous tenez Demerzel en haute estime, ce qui n'est pas mon cas. Et, vous excepté, aucun homme d'avis respectable n'a une bonne opinion de lui. Peu m'importe son sort personnel, Harry. Mais tant qu'il me semblera que cela vous importe à vous, je n'aurai de cesse de porter ce fait à votre attention. » Seldon sourit tant de la franchise de son interlocuteur que de sa vaine inquiétude. Il aimait bien Hugo Amaril, et même plus encore. Hugo était l'un de ces 4 individus qu'il avait connus lors de cette brève période de son existence où il était en fuite à la surface de la planète Trantor. Eto Demerzel, Dors Venabili, Hugo Amaril et Reich. 4 individus, à ses yeux irremplaçables. Chacun à sa manière, ces 4-là lui étaient indispensables. Hugo Amaril, pour sa vivacité à saisir les principes de la psychohistoire et sa capacité à imaginer de nouvelles voies. Il était réconfortant pour Seldon de savoir que s'il lui arrivait quelque chose avant d'avoir achevé de formaliser les mathématiques de ce domaine, et comme les progrès étaient lents, Comme les obstacles étaient ardus, il resterait au moins un esprit éclairé pour poursuivre la tâche. Il reprit. « Je suis désolé, Hugo. Je ne voulais pas avoir l'air impatient ou rejeter sans examen ce que tu brûles tant de me faire comprendre. C'est simplement à cause de mon travail, cette tâche de chef de département. » Ce fut au tour d'Amaril de sourire en retenant sa bonne humeur. « Je suis désolé, Harry, et je ne devrais pas rire, mais vous n'avez aucune aptitude naturelle pour ce poste. À qui le dis-tu ? Il faudra pourtant bien que j'apprenne. Je dois donner l'impression de me livrer à quelques tâches anodines. Et rien, je dis bien rien, n'est plus anodin qu'un poste de chef du département de mathématiques de l'université de Stirling. Je peux consacrer ma journée entière à des tâches sans importance, de sorte que personne n'aura l'idée de s'interroger ou de nous interroger sur le déroulement de nos recherches en psychohistoire. Mais le problème, vois-tu, c'est que je consacre effectivement mes journées à des tâches sans importance et que je n'ai plus le temps de... » Ses yeux balayèrent le bureau. Il pensa à la masse d'informations secrètes stockées dans les mémoires des ordinateurs dont seul Amaril et lui avaient la clé. L'ensemble des données avait été soigneusement rédigé selon un nouveau code symbolique inaccessible au commun des mortels. « Une fois que vous aurez mieux assimilé vos devoirs, reprit Amaril, vous pourrez commencer à les déléguer, et vous aurez plus de temps. Je l'espère. » Seldon était dubitatif. « Mais au fait, que voulais-tu me dire de si important à propos d'Eto Demerzel ? Simplement qu'Eto Demerzel, premier ministre de notre grand empereur, fomente activement une insurrection. » Seldon fronça les sourcils. « Pourquoi voudrait-il faire une chose pareille ? Je n'ai pas dit qu'il le voulait. C'est ce qu'il fait. C'est tout. Qu'il en soit ou non conscient. Et avec l'aide notoire de certains de ses propres ennemis politiques. Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient, comprenez-moi bien. Je pense même que, dans l'idéal, ce serait une bonne chose de le chasser du palais, loin de Trentor, et même hors des frontières de l'Empire. Mais vous le tenez en haute estime, je l'ai dit. Donc, je vous mets en garde, car je vous soupçonne de n'avoir pas suivi les récents événements politiques avec toute l'attention qu'ils méritent. Il y a bien plus important à faire, objecta doucement Seldon. De la psychohistoire, par exemple ? Je suis d'accord. Mais comment développer la psychohistoire avec le moindre espoir de succès si nous restons ignorants de la politique ? Je parle de la politique contemporaine. C'est aujourd'hui même que le présent se transforme en avenir. Nous ne pouvons nous contenter d'étudier le passé. C'est à l'épreuve du présent et du futur proche que nous devons confronter nos résultats. Il me semble avoir déjà entendu cet argument. Et vous l'entendrez encore, bien que j'ai l'impression de m'échiner en vain à vous l'expliquer. Seldon soupira, se cala dans son fauteuil, considéra Amaril avec un sourire. Le jeune homme savait se montrer mordant, mais il prenait la psychohistoire au sérieux. Et cela compensait amplement. Amaril avait gardé la marque de ses jeunes années de puisatier. Il avait les épaules carrées et la musculature des hommes formés aux travaux pénibles. Il n'avait pas laissé son corps s'amollir, et c'était un bon point car il poussait Seldon à résister à l'envie de passer tout son temps à son bureau. Sans posséder la force physique d'Amaril, il entretenait ses talents d'esquiveur. Certes, il venait de dépasser la quarantaine et ne pourrait les entretenir indéfiniment, mais pour l'heure, il continuait. Grâce à ses exercices quotidiens, il avait gardé la taille fine, les bras et les jambes fermes. Ton inquiétude pour Demerzel ne vient pas seulement de ce qu'il est de mes amis. Tu dois bien avoir quelque autre raison. Il n'y a aucun mystère. Tant que vous resterez l'ami de Demerzel, votre position à l'université sera sûre. Et vous pourrez poursuivre vos recherches psychohistoriques. Nous y voilà. J'ai donc une bonne raison de ne pas me brouiller avec lui. Cela ne dépasse pas ton entendement. Vous avez certes intérêt à le ménager, je veux bien l'admettre, mais quant à l'amitié, là, je ne saisis plus. En revanche, si Demerzel perd le pouvoir, en dehors de l'effet éventuel sur votre poste universitaire, Cléon se retrouverait seul dès lors à diriger l'Empire. Ce qui ne ferait qu'en accélérer le déclin. L'anarchie pourrait nous submerger avant que nous ayons déterminé toutes les implications de la psychohistoire et permis à cette science de sauver l'humanité.
Je vois. Mais tu sais, honnêtement, je ne crois pas que nous aurons mis au point la psychohistoire à temps pour éviter la chute de l'Empire.
Même si nous n'avons pas les moyens de l'empêcher, nous pourrions en amortir les effets, non?
Peut-être.
Eh bien voilà. Plus longtemps nous travaillerons en paix, plus nous aurons de chances de prévenir la chute ou, du moins, d'en atténuer les effets. Dans cette optique, il peut se révéler nécessaire de sauver Demerzel, quelle que soit notre ou mon opinion sur le bonhomme.
Tu viens pourtant de dire que tu aimerais le voir chassé du palais, loin de Trentor, hors des frontières de l'Empire même.
Certes, dans l'idéal, ai-je précisé. Mais nous ne vivons pas dans des conditions idéales et nous avons besoin de notre Premier ministre, même s'il est un instrument de répression et de despotisme.
Je vois. Selon toi, l'Empire serait si proche de la dissolution que la chute du Premier ministre la précipiterait.
Qu'est-ce qui te permet d'avancer cela ?
La psychohistoire. Nous n'avons même pas encore mis son cadre en place.
Quelle prédiction peux-tu faire ?
Il y a l'intuition, Harry.
L'intuition a toujours existé.
Nous voulons mieux, n'est-ce pas ?
Nous voulons un traitement mathématique qui nous donne les probabilités de développement futur spécifiques dans telle ou telle condition.
Si l'intuition suffit à nous guider, alors nous n'avons plus du tout besoin de la psychohistoire.
La question n'est pas de choisir entre l'une et l'autre, Harry. C'est leur combinaison qui peut se révéler plus efficace que l'une ou l'autre, en attendant que la psychohistoire se perfectionne.
Si elle se perfectionne, observa Seldon.
Mais dis-moi,
d'où vient ce danger qui guette Demerzel ? Qu'est-ce qui est susceptible de lui nuire ou de le renverser ? Car c'est bien de son renversement que nous parlons.
Oui, confirma Amaryl, la mine devenue sinistre.
Alors dis-moi tout. Aie pitié de mon ignorance.
Amaryl rougit.
Vous êtes condescendant, Harry.
Vous avez bien sûr entendu parler de Jojo Johannam ?
Certainement.
C'est un démagogue. D'où vient-il déjà ? De Nishaya, c'est ça ?
Une toute petite planète d'éleveurs de chèvres, je crois. Excellent fromage.
C'est cela.
Ce n'est pas un simple démagogue, toutefois. Il a de nombreux partisans, et leur force s'accroît de jour en jour. Son objectif, à l'entendre, est la justice sociale et le renforcement de la conscience politique du peuple.
Oui, c'est ce que j'ai entendu.
Son slogan est « Le gouvernement appartient au peuple ».
Pas tout à fait, Harry. Il dit « Le gouvernement, c'est le peuple ».
Seldon acquiesça.
Eh bien, je t'avoue que c'est une idée que je partage volontiers.
Et moi donc, je serais même entièrement d'accord si Johannam était sincère, mais il ne l'est pas.
Ce n'est pour lui qu'un tremplin. C'est un moyen, pas une fin.
Il veut se débarrasser de Demerzel. Après ça, il aura les coudées franches pour manipuler Cléon.
Ensuite, Johannam prendra lui-même le trône, et le peuple, ce sera lui.
Vous m'avez dit vous-même qu'il s'est produit de nombreux épisodes de cette sorte dans l'histoire de l'Empire. Or, de nos jours, l'Empire est plus faible et moins stable que jadis. Un coup qui, dans les siècles passés, l'aurait tout au plus ébranlé, pourrait désormais le briser. L'Empire sombrera dans une guerre civile dont il ne se remettra pas si nous n'avons pas de psychohistoire établie pour nous enseigner ce qu'il convient de faire.
Oui, je vois ton argument.
Mais il ne sera sans doute pas aussi aisé de se débarrasser de Demerzel.
Vous ignorez à quel point grandit le pouvoir de Johannam.
Peu importe l'accroissement de son pouvoir.
L'ombre d'une pensée parut obscurcir le front de Seldon.
Je me demande quelle idée ont eu ses parents de le baptiser Jojo. Il y a quelque chose de juvénile dans ce prénom.
Ses parents n'ont rien à voir dans l'affaire.
Il s'appelle en fait Laskin. Un prénom fort répandu sur Nishaya. Il a choisi lui-même ce surnom de Jojo, sans doute d'après la première syllabe de son nom de famille.
Plutôt idiot, tu ne trouves pas ?
Non, pas du tout.
Ses partisans le hurlent. Jojo, Jojo, interminablement.
Cela a quelque chose d'hypnotique.
Eh bien, dit Seldon,
et il fit mine de retrouver son triordinateur afin d'ajuster la simulation pluridimensionnelle qu'il y avait créée. Advienne que pourra. Nous verrons bien. Comment pouvez-vous vous montrer aussi désinvolte? Je vous répète que le danger est imminent. Non, pas du tout. L'œil de Seldon était devenu froid comme l'acier. Sa voix s'était soudain durcie. Tu ne détiens pas l'ensemble des données. C'est-à-dire? Nous en discuterons en temps utile, Hugo. Pour l'heure, poursuis ton travail et laisse-moi me soucier de Demerzel et de l'état de l'Empire. Les lèvres d'Amaril se pincèrent. Toutefois, l'habitude d'obéir à Seldon était bien ancrée. Oui, Harry. Bien ancré, mais pas à l'excès. Parvenu à la porte, il se tourna et dit « Vous commettez une erreur, Harry. » Seldon eut un léger sourire. « Je ne le crois pas, mais j'ai entendu ton avertissement et ne l'oublierai pas. D'ici là, tout se passera bien. » Et comme Amaril sortait, le sourire s'effaça du visage de Seldon. Tout se passerait-il si bien que ça ?